Bien, je remercie Monsieur l'Administrateur, je remercie l'Assemblée des professeurs qui m'a confié la charge de l'organisation de ce colloque de rentrée. Et je remercie Madame Benita qui a contribué plus que largement à la mise au point matérielle de cette rencontre. Pour donner d'informations, malheureusement, M. Manfred Kropp, qui est annoncé dans le programme, ne pourra pas être parmi nous pour raison de santé. Il n'a même pas pu nous envoyer un texte qu'on aurait pu lire, parce que sa santé ne lui permet pas. Nous lui souhaitons évidemment un prompt rétablissement. J'aurais dû peut-être faire une présentation plus générale, mais en fait, ça s'embraye directement sur mon texte, que je ferai peut-être un peu plus long que les autres contributions, puisque c'est le texte de cadrage sur l'œuvre et la vie de Renan, qui permettra ainsi aux autres de trouver place à l'intérieur de ce cadrage. Normalement, donnons une demi-heure environ aux intervenants, et puis un quart d'heure pour quelques questions. Il faut qu'on tienne l'heure parce que nous sommes quand même à un programme relativement chargé. Alors, en effet, le 2 octobre 1892, il y a à peine plus de 120 ans, dans ces lieux mêmes, Renan est mort, puisqu'il est mort au Collège de France, puisqu'il était administrateur et qu'il a donc connu ses derniers instants dans son logement de fonction. Et comme on vient de le rappeler, c'est aussi le 150e anniversaire de sa célèbre leçon inaugurale au Collège de France. Deux raisons légitimes pour que le Collège en tant que tel lui rende hommage. Il nous est difficile, même quand nous recevons un prix Nobel, d'imaginer l'influence de Renan en son temps. En 1902, Anatole France écrivait « Renan fut l'un des plus vastes génies de ce temps. Linguiste, épigraphiste, historien, philosophe, il fut la plus grande lumière du XIXe siècle. La probité de son esprit égalait la vigueur de son intelligence. » Il servit la science comme devait être servie, avec un absolu dévouement. Il consacra sa vie entière à la vérité. Bien évidemment, le pape Pie IX, inversement, l'avait traité, semble-t-il, de blasphémateur européen, titre que d'autres voudraient peut-être revendiquer aujourd'hui. Les libres penseurs eux-mêmes ont toujours été un peu dans une position d'ambiguïté par rapport à Ernest Renan. Pierre Larousse écrit dans son célèbre dictionnaire « Libre penseur, il n'aura rendu que de très médiocres services à la libre pensée. Ses fantaisies, ses piquants paradoxes, ses mots profonds, ses ouvertures inattendues sur les champs les plus divers de la pensée, son admirable style pourront charmer et séduire les purs lettrés, mais il n'aura aucune prise sur ceux qui veulent des doctrines précises et définies, qui aime avant tout les convictions fortes et robustes, la saine virilité de l'esprit, qui croit que la vérité doit être la même pour tous, que la justice et la liberté ne sont pas de vains mots, et que ce qu'il importe le plus de faire aujourd'hui pour l'avenir du monde, c'est d'éclairer la démocratie, de lui apprendre à se posséder et à se diriger. » Donc là, on a une critique de gauche de Renan. En tout cas, il est certain, et c'est ce que disent les contemporains, en 1892, au moment de sa mort, le prestige de Renan avait égalé celui de Victor Hugo comme la personnalité la plus influente de la société française. On pourrait multiplier les témoignages, j'en ai un ici, mais je n'ai pas le temps de le citer, de Gabriel Monod, qui le met au niveau de Voltaire. Donc, cette immense personnalité. Ses funérailles ont été célébrées par les soins de l'État et aux frais du trésor République. En 1892, 1904 et 1923, des projets de loi ont été déposés pour le transfert de ses cendres au Panthéon, puisqu'à l'époque, c'était la Chambre des députés qui décidait le transfert et non pas le président de la République. Mais l'opposition des catholiques a fait échouer ses tentatives. Nous verrons tout à l'heure s'il est encore temps de demander le transfert au Panthéon. Ces quelques indications nous montrent l'importance de Renan, ce qui fait de lui un objet d'étude légitime, qui est au croisement de plusieurs disciplines scientifiques, l'histoire des sciences, l'histoire de la philosophie, l'histoire de la littérature, l'histoire politique, l'histoire des sensibilités, et on pourrait probablement rajouter encore d'autres disciplines, oui, évidemment l'histoire des religions. Ce caractère. En général, l'approche biographique a été privilégiée. Elle est d'autant plus attractive que Renan lui-même a mis en récit les principales étapes de sa vie, en particulier les années de jeunesse. Il a ainsi fixé le cadre dans lequel des travaux d'érudition, souvent de qualité, se sont inscrits. L'autre courant dominant a été celui de l'étude de la pensée de Renan et de son influence sur son temps et sa postérité. La place spécifique de Renan dans l'évolution de différents savoirs a été moins marquée. On va essayer ici de s'appliquer à ces différents domaines. Mais comment devient-on Ernest Renan ? Ce qui a fait la carrière d'Ernest Renan a été l'orientalisme. On peut même dire qu'il est le modèle parfait de la caricature qu'en a fait un siècle après Édouard Saïd. Il a parcouru les millénaires et les cultures, en a fait des essences et a multiplié les jugements péremptoires de nature essentialiste. Les politiques ont utilisé ses écrits pour justifier leur politique coloniale. Le procès rétrospectif est facile à faire et n'a pas attendu le critique palestino-américain. Déjà en 1950, avec rage, Aimé Césaire a souligné la parenté entre Renan et l'hitlérisme, mais plus tard, le même Césaire s'inspira du Caliban de Renan pour écrire une tragédie. Renan est né le 28 février 1823 à Tréguier, c'est-à-dire l'année qui suit la création de la Société asiatique de Paris. Cette décennie 1820 est le moment capital où le terme même d'orientalisme devient d'usage courant pour désigner à la fois une recherche scientifique et un mouvement littéraire et artistique. Le grand Sylvestre de Sacy, qui a été aussi administrateur au Collège de France, né en 1758, n'a été qualifié d'orientaliste qu'à 60 ans passés. Scientifiquement, cet orientalisme s'appuie sur la découverte capitale de la parenté des langues indo-européennes entre elles, connue plus tardivement en France qu'en Angleterre ou en Allemagne. Il en découle une parenté d'institutions sociales dans l'immense espace entre l'Inde et l'Europe. On discerne ainsi l'existence d'une commune féodalité à travers les siècles et les espaces. Mais qui dit féodalité dit aussi invasion, selon l'interprétation convenue depuis longtemps de la chute de l'Empire romain. L'Europe, qui commence sa révolution industrielle, tire ainsi son origine de ce nouvel Orient, celui des Indo-Germaniques. Ce terme ne plaît d'ailleurs pas aux Français, qui préfèrent utiliser Aryen ou Indo-Européen. La lecture des premiers numéros du journal asiatique est très instructive à cet égard. Mais l'orientalisme des années 1820 est aussi une volonté de renouvellement des littératures européennes en trouvant d'autres sources que les humanités dites classiques, c'est-à-dire gréco-latines. Le mouvement a été suffisamment puissant pour qu'on puisse parler de renaissance orientale. C'est durant les 20 premières années de la vie de Renan que l'orientalisme opère sa mue décisive en passant d'un domaine des belles-lettres au statut de discipline scientifique grâce à l'arrivée à maturité de la grammaire comparée, et à la volonté d'établir un inventaire raisonné des civilisations humaines. Là encore, la fin de la décennie 1820 est le moment décisif où le terme « civilisation », conçu comme un mouvement d'esprit humain dans l'histoire, dans une problématique du progrès, passe au pluriel pour désigner les grands ensembles historiques et culturels que nous connaissons encore. Ainsi, Guizot, dans son célèbre cours sur l'histoire de la civilisation en Europe, de 1828-1829, oppose le monolithisme des autres civilisations au pluralisme dynamique de la civilisation européenne. Je cite. « Quand on regarde aux civilisations qui ont précédé celles de l'Europe moderne, soit en Asie, soit ailleurs, y compris même la civilisation grecque et romaine, il est impossible de ne pas être frappé de l'unité qui y règne. Elles paraissent émaner d'un seul fait, d'une seule idée. On dirait que la société appartenait à un principe unique qui la dominait et en a déterminé les institutions, les mœurs, les croyances, en un mot, tous les développements. » Fin de citation. Évidemment, le jeune Breton ignore tout cela. Il est né dans un milieu aisé, mais appauvri, du fait de la disparition du père. Il montre des dons précoces pour les études et on attend de lui qu'il devienne un prêtre. Il est ainsi envoyé en 1838 au petit séminaire de Saint-Nicolas du Chardonnay et on connaît les sacrifices matériels que sa sœur Henriette fait pour lui permettre d'avoir ses longues études. Puis c'est le séminaire d'Issy, dépendant de Saint-Sulpice et en 1842, l'entrée dans la grande crise religieuse qui l'amène à douter, d'où le fait qu'il est amené à quitter le séminaire en 1845 pour vivre dans des conditions assez misérables. Mais au séminaire, je ne veux pas empiéter sur la communication de M. Zinck, mais au séminaire, il a aussi découvert l'orientalisme à travers les études bibliques et il a commencé à suivre les cours du Collège de France dans les différentes langues sémitiques enseignées au Collège. C'est à la fin des années 1840, dans la même pension, qu'il rencontre le jeune Berthelot, qui deviendra donc l'un de ses amis les plus chers. Sa force de travail est impressionnante. En mars 1847, il dépose son premier travail académique pour concourir au prix Volney. C'est l'essai historique et théorique sur les langues sémitiques en général et sur la langue hébraïque en particulier. Il est immédiatement considéré comme le jeune et brillant espoir de l'orientalisme. Le 13 août 1847, il est reçu à la Société asiatique de Paris. Et en même temps, toujours dans cette année 1847, se met en place ce qui sera l'ambition de sa vie, c'est comment naissent les religions. Il utilise un néologisme qu'il abordera ensuite, la religionification, ce qu'il utilise dans une lettre à Berthelot. Mais en même temps, il considère que la modernité, la Révolution française, le progrès technique, est en train d'engendrer une religion de la modernité équivalente aux anciennes religions. Cette ambition de savoir comment naît ou comment fabrique-t-on une religion est l'ambition essentielle de sa vie. Et évidemment, la révolution de 1848 va lui permettre de reposer la question face au mouvement socialiste qu'il interprète là aussi en termes religieux. Renan est un amoureux du paradoxe. Tout en refusant l'idée d'une vérité absolue, il croit en la vérité scientifique et construit durant les années de la Seconde République tout un système cohérent qui entreprend de mettre en ordre le domaine de l'orientalisme et par là même celui des origines de l'humanité. En 1848, en dépit de la tourmente, il obtient un second prix Volney et passe l'agrégation. En même temps, il commence à s'adresser au grand public par l'intermédiaire d'un journal au nom révélateur, la liberté de penser. Le cléricalisme du parti de l'ordre l'effraie, et il rédige dans la fièvre en 1848-1849 l'avenir de la science, qui résultera plus tard, exprime chez lui son besoin de résumer la foi nouvelle qui avait remplacé chez moi le catholicisme ruiné. Ça, c'est la préface de 1890. Pour lui, le salut de l'humanité passe par l'avènement de la science qui aura à organiser la société. L'ouvrage se présente sous forme d'affirmation, toute une série d'hypothèses de travail. L'œuvre de la critique moderne est de détruire tout système de croyance entaché de supernaturalisme. Science, critique, rationalisme, civilisation, philosophie sont des termes synonymes. La philologie, prise au sens de polymathie, est la science des produits de l'esprit humain. C'est la philologie inséparablement liée à la critique qui est à l'origine du monde moderne. Il va jusqu'à dire, les fondateurs de l'esprit moderne sont des philologues. La philologie est la science exacte des choses de l'esprit, et on pourrait multiplier à travers l'avenir de la science ce genre d'affirmation. On y trouve aussi déjà l'opposition fondamentale entre les races indo-germaniques porteuses de mythologie et de philosophie et les races sémitiques porteuses de l'esprit religieux et monothéiste. Il en résulte que la vraie histoire de la philosophie est l'histoire des religions. Renan discerne deux grands dangers, celui du retour offensif du cléricalisme qui étoufferait la liberté de penser, ce qui est d'actualité en 1849, et celui de l'avènement incontrôlé des masses que représente le socialisme. L'interrogation de Renan porte sur ce dilemme. Il faut conserver les conquêtes de la civilisation déjà faites. Il faut que tous aient part au bienfait de cette civilisation. Il est prêt à s'accommoder du maintien de certaines formes d'inégalité, mais il ne peut se satisfaire des justifications données aux inégalités. Et la solution repose par une diffusion contenue de l'éducation dans le peuple. Il en est de même pour les races sauvages, je cite, j'imagine du reste que l'étude scientifique expérimentale de l'éducation des races sauvages deviendra un des plus beaux problèmes proposés à l'esprit européen lorsque l'attention de l'Europe pourra un instant se détourner d'elle-même. L'histoire de l'humanité n'est pas seulement l'histoire de son affranchissement, c'est surtout l'histoire de son éducation. Fin de citation. À plusieurs reprises, comme on vient de le signaler, dans ses écrits autobiographiques, Renan exprimera le regret de ne pas s'être consacré aux sciences de la nature qui sont l'apanage de son ami Berthelot. Mais avouons-le, c'est coquetterie de sa part. Sa problématique est un aller-retour constant entre de grandes hypothèses explicatives et des monographies de détail qui lui paraissent confirmer ses hypothèses. Il n'est orientaliste que dans la mesure où il faut aborder l'ensemble de l'esprit humain, en dresser la carte de ses productions intellectuelles. Il veut à la fois tirer au clair les origines de l'humanité et les angoissantes questions contemporaines. En revanche, esprit imbu de haute culture, il s'intéresse peu à ce que les philosophes du XXe siècle appelleront la technique. En pleine révolution industrielle, cela ne lui apparaît que comme une conséquence de l'esprit moderne, un peu subalterne probablement. Ainsi, le discours sur l'imprimerie et les chemins de fer qui rapprochent les hommes ressemble pour lui à ce que Flaubert appellerait des idées reçues. Il a rapidement renoncé à la publication de l'avenir de la science, ouvrage présomptueux pour un gamin de 26 ans. Il faut d'abord faire ses preuves dans le domaine scientifique. À l'automne 1849, il reçoit une mission d'études de en Italie avec Charles d'Arenberg. C'est la première fois qu'il quitte la France et la Bretagne. Il découvre la France du Sud, puis Rome, puis le reste de l'Italie. L'homme des livres s'ouvre à la vie mondaine et à la connaissance des arts. Il travaille ensuite à son retour à sa thèse sur Averroès. Le coup d'État du 2 décembre 1851 met fin au journal La Liberté de penser et Renan devient un collaborateur régulier de la revue des Deux Mondes. Il est hostile à Napoléon III qui lui paraît conjuguer le soutien des masses au cléricalisme. Il n'est pas républicain, mais appartient à un libéralisme élitiste dans la lignée des anciens orléanistes. Donc c'est avec justice qu'il collabore à partir de 1853 au Journal des débats, l'organe des orléanistes. Il soutient sa thèse le 11 août 1852 sur Averroès, puis il s'engage dans la rédaction de son histoire générale et comparée des langues sémitiques. Son but est clair, il lui faut faire des épreuves scientifiques et disposer des titres nécessaires pour pouvoir accéder à une chaire au Collège de France, ce qui est son rêve depuis sa sortie du séminaire. Mais en même temps, ses activités de publiciste lui assurent un revenu annexe assez confortable vu la modicité du traitement de bibliothécaire qu'il a à la Bibliothèque nationale. Enfin, à l'époque, c'était la Bibliothèque impériale. Les années 1850 sont ainsi consacrées à l'édification de son œuvre philologique au sens indiqué dans l'avenir de la science. Paradoxe essentiel de son œuvre, tout en prenant les vertus de l'esprit indo-européen, il se consacre essentiellement à dresser la carte de l'esprit sémitique. Il alterne les affirmations brutales sur la pauvreté intellectuelle des races sémitiques et les jugements beaucoup plus nuancés sur l'importance du fait racial dans l'histoire. Alors, parfois, on a des choses très brutales, parfois des choses très nuancées dans ce domaine. En fait, ce que Renan appellera, c'est en quelque sorte ce que Guizot appelait le principe de spécialisation des civilisations humaines. Et on peut dire que Renan a racialisé la pensée de Guizot. En même temps, il montre bien que l'arianisme, comme le sémitisme, c'est le fait d'une étroite minorité, d'une petite aristocratie d'esprit qui s'impose à des grands ensembles d'humains. Et le sémitisme, chez lui, est un idéal type. Dès qu'une population dite sémitique s'éloigne du modèle, on doit soupçonner l'existence d'un mélange ou l'action du processus de civilisation destructeur des influences raciales originelles. Ainsi, les Mésopotamiens et les Phéniciens sont des mauvais sémites parce qu'ils ne sont pas monothéistes. Donc, finalement, il n'y a que très peu de sémites qui correspondent à l'idéal type sémitique développé par Renan. Mais en même temps, il connaît déjà les dangers de l'orientation raciologique et toute la seconde partie de l'œuvre de Renan est déjà contenue dans la lettre à Gobineau du 26 juin 1856, réponse à l'envoi de l'essai sur l'inégalité des races humaines par Gobineau. L'esprit français se prête peu aux considérations ethnographiques. La France croit très peu à la race, précisément parce que le fait de la race s'est presque effacé dans son sein. Je rencontre pour ma part la même difficulté en linguistique. La langue française n'étant qu'un détritus de quatrième ou cinquième formation est certainement une des causes qui font que l'esprit français n'a pas du tout été amené et se prête très difficilement au vrai principe de la philologie comparée. Tout cela ne pouvait naître que chez un peuple comme le peuple allemand qui tient encore à ses racines primordiales et parle une langue qui a ses causes en elle-même. Le fait de la race est immense à l'origine, mais il va toujours perdant de son importance et quelquefois comme en France, il arrive à s'effacer complètement. Est-ce là absolument parlant une décadence? Oui, certes, au point de vue de la stabilité des institutions, de l'originalité des caractères, d'une certaine noblesse dont je tiens pour ma part les plus grands comptes dans l'ensemble des choses humaines, mais aussi que de compensation. Sans doute, si les éléments nobles mêlés au sang d'un peuple arrivaient à s'effacer complètement, alors ce serait une avilissante égalité analogue à celle de certains États de l'Orient et à quelques égards de la Chine. Mais ce n'est qu'en réalité une très petite quantité de sang noble mise dans la circulation d'un peuple suffit à l'ennoblir au moins qu'aux effets historiques. C'est ainsi que la France, nation si complètement tombée en roture, joue en réalité dans le monde le rôle de gentilhomme, en mettant à part les races tout à fait inférieures dont l'immixtion aux grandes races ne ferait qu'empoisonner l'espèce humaine. Je conçois pour l'avenir une humanité homogène où tous les grands ruisseaux originaires se fondront en un grand fleuve et où tout souvenir des provenances diverses sera perdu. La civilisation qui correspondra à un tel état de l'humanité sera inférieure sans doute en noblesse et en distinction à celle des âges aristocratiques, mais sera-t-elle inférieure d'une manière absolue ? C'est sur quoi j'hésite à me prononcer. Et déjà dans cette période, Renan développe l'idée que la civilisation est le processus destructeur du fait racial, qui est le fait des origines. En 1856, il se marie avec Cornélie Schaeffer. Il est élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, considéré à l'époque comme voie d'accession au Collège de France. Mais comme les milieux catholiques s'opposent toujours à son élection au Collège, il continue son travail et il fait surtout connaissance d'un grand éditeur, Michel Lévy, qui sera son éditeur jusqu'à la fin de sa vie, avec une très grande amitié. En 1860, je passe parce que ça va être retraité, il fait sa célèbre mission en Phénicie de 1860-61 avec le drame de la disparition de sa sœur Henriette à Amschit, mais nous aurons une communication tout à fait forte sur ce sujet. Le retour de la mission de Phénicie lui permet l'élection au Collège de France le 2 décembre 1861, date curieuse. Le milieu catholique proteste, tandis que la gauche libérale l'accuse de s'être laissé acheter par le régime, ce qui fait que le jour de la leçon inaugurale du 22 février 1862, il y a deux oppositions dans la rue, celle des catholiques et celle des républicains. Mais en tout cas, on est dans une atmosphère de quasi-émeute, ce que lui ne fait qu'encourager en quelque sorte avec son célèbre « Jésus, un homme incomparable, si grand que bien qu'ici tout doive être jugé au point de vue de la science positive, je ne voudrais pas contredire ceux qui, frappés du caractère exceptionnel de son œuvre, l'appellent Dieu ». On sait que cette phrase, une des phrases essentielles de l'histoire de la pensée du XIXe siècle, a provoqué un tel scandale qui a amené, comme on la verra, sa évocation. Néanmoins, il ne faut pas oublier que la même leçon inaugurale comporte l'attaque en règle la plus forte jamais portée contre l'islam. L'islamisme aujourd'hui, au contraire, se décompose lentement. De nos jours, il s'écroule avec fracas. À l'heure qu'il est, la condition essentielle pour que la civilisation européenne se répande, c'est la destruction de la chose sémitique par excellence, la destruction du pouvoir théocratique de l'islamisme, par la conséquence, la destruction de l'islamisme, car l'islamisme ne peut exister que comme religion officielle. Quand on le réduira à l'état de religion libre individuelle, il périra. L'islamisme, ce n'est pas seulement une religion d'État, c'est une religion excluant l'État, c'est une organisation dont les États pontificaux seuls en Europe offraient le type. Là est la guerre éternelle, la guerre qui ne cessera que quand le dernier fils d'Ismaël sera mort de misère ou raté, relégué par la terreur au fond du désert. Évidemment, je ne sais pas si on pourrait se permettre aujourd'hui de s'exprimer de cette façon. Et conclusion, l'avenir, messieurs, est donc à l'Europe et à l'Europe seule. L'Europe conquérera le monde et y répandra sa religion, qui est le droit, la liberté, le respect des hommes, cette croyance qui a quelque chose de divin au sein de l'humanité. Alors, évidemment, après la publication de la leçon par le journal de débat, le scandale atteint son maximum et Renan est suspendu de ses fonctions au Collège de France. mais en même temps, il entre au dîner Magnier, sorte de club élitiste et libre-penseur. Il y côtoie les plus grands intellectuels de son temps, Sainte-Beuve, les Goncourt, Flaubert, Théophile Gautier, Taine, Berthelot. Ça lui vaudra une série de notations assassines dans le journal des Goncourt et évidemment des scandales à répétition quand le dit journal sera publié quelques décennies après. C'est durant la mission de Finissy que la conception d'un ouvrage sur la vie de Jésus, qui était en fait tout le travail de Renan, puisque toute l'œuvre précédente en est la préparation, est arrivée à maturité. Et la vie de Jésus est publiée le 24 juillet 1863. Nouveau scandale, l'Église parle de blasphème, mais aussi immense succès de librairie qui lui donne son à Renan l'indépendance phénicienne et qui lui vaut la révocation définitive de sa chaire du collège. En 1864, il entame un tour de la Méditerranée orientale pour se documenter pour la suite de la vie de Jésus. La découverte d'Athènes lui permettra d'écrire la prière sur l'Acropole. Les apôtres paraîtront en avril 1866 et la succession des volumes sur les origines du christianisme s'étendra jusqu'à 1882. En 1869, il essaye de faire une rentrée en politique. Il est candidat du tiers parti d'Émile Ollivier aux élections de 1869. Il est battu et en tire une forte méfiance envers le suffrage universel. Mais il est caractéristique qu'il soit un orléaniste rallié à l'Empire libéral. Telle est sa position politique en 1869. La guerre de 1870 est pour lui un drame terrible parce que depuis ses années de jeunesse, il était attiré par la puissance de la culture allemande et David Strauss, auteur d'Une vie de Jésus, avait été sa grande référence intellectuelle dans son travail sur les origines du christianisme. Ça s'accompagne d'une polémique publique à travers journaux entre lui et David Strauss, avec en particulier ce qui sera considéré malheureusement pour le XXe siècle comme prémonitoire, le danger que constitue la vision allemande de la nation. Je cite. Notre politique, c'est la politique du droit des nations, la vôtre, c'est la politique des races. Nous croyons que la nôtre vaut mieux. La division trop accusée de l'humanité en races, outre elle repose sur une erreur scientifique, très peu de pays possédant une race vraiment pure, ne peut mener qu'à des guerres d'extermination, à des guerres zoologiques, permettez-moi de le dire, analogue à celle que les diverses espèces de rongeurs ou de carnassiers se livrent pour la vie. Ce sera la fin de ce mélange fécond, composé d'éléments nombreux et tous nécessaires, qui s'appelle l'humanité. Vous avez levé dans le monde le drapeau de la politique ethnographique et archéologique en place de la politique libérale. Cette politique vous sera fatale. Les lettres à Strauss seront publiées en complément de la réforme intellectuelle et morale, au contenu désabusé, voire conservateur. Mais en même temps, la première chaise de la République, du gouvernement de la Défense nationale, en décembre 1870, c'est d'avoir restauré Renan dans sa chaire du collège. On note à ce moment-là que depuis 1868, il est aussi le rapporteur annuel de la Société asiatique, ce qui permet de faire un état du monde orientaliste tous les ans. Et on voit aussi comment sa pensée est devenue aussi assez rigide. Il refuse d'admettre l'existence d'une race touranienne porteuse de civilisation. Le problème, c'est qu'on vient de découvrir Sumer. Et Sumer est antérieur aux Indo-Européens et aux Sémites. Or, une telle chose n'entre pas dans la logique du système renanien. Donc, avec véhémence, Renan rejette Sumer et les Touraniens. Il exprime son ralliement à la Troisième République, à la République des Républicains, par sa grande pièce de théâtre, Caliban, publié en 1878. Prospero, qui représente la civilisation, est sauvé de l'Inquisition par Caliban, qui représente le peuple. Je cite, « Je suis héritier des droits de Prospero, je dois le défendre. Prospero est mon protégé, il faut qu'il travaille à son aise avec ses philosophes et ses artistes sous mon patronage. Ses travaux seront la gloire de mon règne, j'en aurai ma part, je l'exploite. C'est la loi du monde. » Donc le peuple protège les sciences. C'est un fait nouveau, parce que jusque-là, le peuple était l'esclave du cléricalisme. Dans ses interventions publiques, il plaide à la fois pour une harmonie des peuples européens et pour une supériorité des races européennes sur le reste du monde, justifiant ainsi la domination coloniale, en refusant d'appliquer aux non-européens sa grille d'interprétation sur la civilisation destructrice du contenu originel des races et des cultures. Le 13 juin 1878, il est élu triomphalement à l'Académie française. Après l'achèvement en 1882 des origines du christianisme, c'est le temps des grandes conférences de 1882-1883, dont le judaïsme comme race et religion, l'islamisme et la science, identité originelle et séparation graduelle du judaïsme et du christianisme, et évidemment le « Qu'est-ce qu'une nation ?» du 11 mars 1882, qui est l'aboutissement de la réflexion entamée par la lettre à Gobineau et rendue vitale par la controverse franco-allemande. Il rejette toute base anthropologique à la division de race définie par la philologie et tout usage politique de cette distinction. Et on connaît la célèbre définition de la nation. Une nation est donc une grande solidarité constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé, elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible, le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. L'existence d'une nation est, pardonnez-moi cette métaphore, un plébiscite de tous les jours, comme l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle de la vie. Et tout le monde sait que cette définition de la nation reste encore au centre de toutes les problématiques sur la nationalité. C'est aussi la publication des souvenirs d'enfance et de jeunesse, succès européen, et aussi apologie du celtisme, qui est aussi l'un des sous-aspects de l'œuvre de Renan, qui, au passage, parlait le breton. En 1883, il devient administrateur du Collège de France. Il trouve qu'il y est particulièrement mal logé. En 1885, il succède à Victor Hugo comme conscience de la nation. Alors, j'ai des témoignages sur les cours de Renan au Collège de France. En fait, il faisait la même chose que dans son bureau, c'est-à-dire de l'exégèse de textes. Ce n'était pas la charge terrible que représente aujourd'hui pour les professeurs la rédaction. Le dernier grand ouvrage est l'histoire du peuple d'Israël, dont la publication sera en partie posthume, une relecture profane de la Bible comme objet d'histoire et comme prélude aux origines du christianisme. À partir de la fin des années 1880, sa santé s'est dégradée, mais il conserve une impressionnante capacité de travail jusqu'au début de l'été 1892. Puis c'est un effondrement jusqu'à sa mort le 2 octobre 1892. À sa mort, Renan était l'une des grandes gloires de la France républicaine, ce qui était un peu inattendu compte tenu de son évolution politique. Toute sa vie, il a été un libéral élitiste, bien que convaincu des mérites de l'éducation populaire. Il n'est devenu républicain que parce que la République est devenue libérale, en maintenant à distance les pressions du cléricalisme dont Renan a souffert jusqu'à l'avènement de la République des Républicains. Il a conservé jusqu'au bout une certaine ironie dans les affaires publiques, tout en étant sensible aux honneurs qu'on lui octroyait. Son immense succès repose sur ses qualités d'écrivain et sur sa capacité à répondre aux interrogations de son temps. À ce siècle de l'histoire qu'était le XIXe siècle, il a donné une réponse historique à la question de la nature de la religion en refusant tout surnaturel. Il est intervenu à de multiples reprises dans les grands dossiers. Renan se considérait comme scientifique et son œuvre a été remise en cause immédiatement après sa mort. Dès 1893, Jean Damestetter remettait en cause l'existence tout simplement de races sémitiques et de races indo-européennes. Les orientalistes du XIXe siècle ont travaillé de la même façon que les savants des sciences de la nature. Ils ont tenté de mettre au point de grandes hypothèses explicatives qui permettraient de mettre en ordre des quantités de faits jusque-là disjoints. En cela, la théorie des races chez Renan est l'analogue de celle de l'éther chez les physiciens de son temps. Elle représente un état du savoir qui a été ensuite dépassé grâce à de nouvelles hypothèses. En revanche, la collecte des faits philologiques et archéologiques reste un acquis pour toujours. Il n'en reste pas moins que les orientalistes du XIXe siècle ont été les inventeurs du mitariat. Pour ces quelques dizaines de savants dispersés à travers l'Europe, il s'agit bien d'une hypothèse de travail élaborée à partir des données de la philologie qui tend à devenir une science des origines. La question historique est de savoir comment ces concepts évolutifs, réservés à une étroite élite, sont devenus des identités figées au contenu mortel un demi-siècle après la mort de Renan. Sur un point, la responsabilité de Renan est importante. Son succès de librairie dans l'Europe entière a popularisé les termes d'Aryens et de Sémites, qui, avec les déformations que cela implique, sont entrés dans l'usage courant dans les dernières années de sa vie. On a vu son refus catégorique de toute assimilation entre l'ethnographie ethnologique et l'anthropologie physique, et son ethnographie, pardon, philologique, pas ethnologique, ça voulait rien dire, et l'anthropologie physique, et son inquiétude perceptible sur les dangers d'une politique fondée sur l'ethnographie. Il est absurde de taxer Renan d'antisémitisme. Son apologie du miracle grec ne doit pas cacher qu'il a consacré toute sa vie à la chose sémitique. Il affirmait très tôt que les Juifs de son temps ne constituaient pas une race, il voyait en eux les représentants du libéralisme moderne, thème qui sera repris négativement par les antisémites. Dans sa critique de l'Allemagne d'après 1870, il lui est arrivé de dire que les Juifs allemands étaient les seuls à avoir conservé l'esprit libéral dans ce pays. Alors, j'avais une citation de Lucien Febvre, mais je y passe, ce sera pour la publication écrite. Aujourd'hui, ce qui est le plus vivant dans la pensée de Renan, c'est sa définition de la nation, qui est le point de référence permanent de tout débat sur l'identité nationale. Une partie de son œuvre est toujours appréciée pour ses qualités littéraires. Depuis la publication de ses œuvres complètes par Henriette Sicari, on a entrepris la publication de sa correspondance générale. Une part notable de ses œuvres est maintenant disponible sur la toile, alors que du temps de Lucien Febvre, elle n'était disponible qu'en bibliothèque. Mais si on projetait de nouveau de transférer ses cendres au Panthéon, il serait certain qu'il serait traité de raciste, d'islamophobe, et de compromission avec le colonialisme. En revanche, on ne parlerait plus de ses attaques contre le catholicisme. On a vu récemment un nouveau président de la République qui, saluant la mémoire de Jules Ferry, a cru nécessaire d'évoquer, je cite, « ses égarements politiques. Sa défense de la colonisation fut une faute morale et politique. Elle doit être à ce titre condamnée. » Fin de citation. Remettre Renan sur la place publique risquerait de conduire à un flétrissement analogue. Donc je crois qu'on doit définitivement renoncer au projet de le mettre au Panthéon. Je vous remercie.